Le mot désir vient du latin desiderare, qui signifie regretter l'absence de quelque chose. La racine du mot renvoie donc à sidus, qui signifie astre ou étoile. Le désir nous renvoie à la contemplation d'un objet à la fois admirable et très éloigné, voire inaccessible. Est-ce à dire que le désir humain ne puisse pas être satisfait? Le désir désigne une tendance psychophysique qui nous pousse à rechercher un objet dont on attend une satisfaction. Telle est la définition. Deux remarques. Tout d'abord, par opposition au besoin, qui est strictement naturel et nécessaire, le désir est à la fois culturel et contingent. Ensuite, chez l'homme, il apparaît toutefois bien difficile de distinguer le besoin du désir dans la mesure où l'homme tend à transformer ses besoins en désirs afin de pouvoir les satisfaire. Ainsi, l'être humain transforme le besoin naturel de manger en gourmandise, ou en gastronomie, et le besoin sexuel de se reproduire en amour et ou en érotisme, etc. Or, s'il est vrai que le désir humain ne correspond à aucune nécessité vitale, on peut se demander s'il ne risque pas de devenir un appétit sans limite et sans objet véritable, une passion à la fois insatiable et destructrice. Cette question nous entraîne donc vers une interrogation philosophique fondamentale concernant la nature humaine. L'homme pourrait-il se définir comme un animal perpétuellement insatisfait? Serait-ce à dire que nous, les humains, ne pourrions absolument pas être heureux? Nous verrons trois questions en rapport avec cette interrogation fondamentale. Premièrement, faut-il maîtriser ses désirs? Deuxièmement, l'homme ne désire-t-il que ce dont il a besoin? Et enfin, désirer, est-ce nécessairement souffrir? Notons que toutes ces questions ont en commun de nous conduire à une réflexion sur la nature humaine, ainsi que sur les conditions de possibilité du bonheur humain. Première question, faut-il maîtriser ses désirs? La première question est à la fois essentielle et classique en philosophie, dans la mesure où la philosophie se définit comme une quête de la sagesse, c'est-à-dire une discipline visant à donner aux hommes la maîtrise de leurs désirs au moyen de l'exercice de leur raison. La maîtrise des désirs y apparaît à la fois comme une nécessité et comme un devoir, faute de quoi l'homme risquerait d'être entraîné vers l'hubris, la passion démesurée et destructrice. Cette question est posée notamment par Platon dans différents dialogues mettant en scène son maître Socrate. Ainsi, dans Le Banquet, la philosophie est identifiée au désir amoureux, Eros en grec, qui apparaît être le fils de Poros, qui signifie la richesse, et de Peña, qui signifie la pauvreté. Or, Socrate nous invite à élever progressivement notre désir en suivant les étapes d'une dialectique ascendante, au-delà du monde naturel ou physique, où se trouvent des corps désirables, vers le monde surnaturel ou métaphysique des idées, qui constitue sa véritable destination. Autrement dit, il s'agit bien ici de maîtriser et de canaliser ses désirs afin d'atteindre la connaissance de l'absolu, source de vérité, de vertu et de bonheur. Toutefois, dans un autre dialogue de Platon intitulé « Gorgias », la pensée de Socrate est confrontée à celle du sophiste, d'après le titre, lui-même nommé Gorgias. Pour ce dernier, le bonheur de l'homme ne saurait consister à maîtriser et limiter ses désirs, ni à les canaliser vers le seul bien vraiment désirable, à savoir la connaissance philosophique de l'absolu. Au contraire, pour Gorgias, le bonheur de l'homme vient du fait qu'il peut désirer sans fin et sans limite de nouveaux objets, de sorte que le désir humain est comparable au tonneau des Danaïdes de la mythologie. Un tonneau percé qu'il faut sans cesse remplir. Nous découvrons dans ce dialogue, écrit par Platon, le caractère irréconciliable de deux conceptions du désir humain, dont découlent également deux visions antagonistes du bonheur. Or, il semble que la conception dominante du désir dans les sociétés modernes et contemporaines soit plus proche, au fond, de celle du sophiste Gorgias que de celle du philosophe Socrate ou de son disciple Platon. Deuxième question, l'homme ne désire-t-il que ce dont il a besoin ? Nous avons vu en introduction que le désir s'oppose au besoin dans la mesure où il porte sur des objets qui ne nous sont pas nécessaires pour vivre, ou plutôt pour survivre. Ainsi, on peut désirer manger une glace au chocolat ou bien à la fraise, ou encore porter un vêtement de telle ou telle marque ou de telle ou telle couleur. Or, on n'en a pas un réel besoin. Un aliment ou un vêtement quelconque serait tout à fait suffisant pour notre survie. Donc toute la difficulté de la question posée par le sujet vient précisément de l'impossibilité de distinguer nettement chez l'homme ce qui relève de la simple survie au sens biologique et ce qui relève de la vie au sens humain du terme. Car la manière humaine de vivre consiste précisément à transformer ses besoins vitaux en désirs sociaux et culturels afin de pouvoir les satisfaire pleinement. Autrement dit, l'homme invente sans cesse de nouveaux besoins non naturels qui se superposent aux besoins strictement naturels et les modifient en profondeur. C'est pourquoi on peut dire que l'homme n'a en un sens pas de besoins strictement naturels, mais seulement des désirs sociaux et culturels. Dans l'Antiquité, le philosophe grec Épicure a tenté cependant de résoudre cette difficulté en établissant dans la lettre à Ménécée une distinction classificatoire entre trois sortes de désirs humains. Premièrement, les désirs dits naturels nécessaires, qui correspondent aux besoins biologiques ou vitaux, comme manger, dormir, etc. Deuxièmement, les désirs naturels non nécessaires, qui correspondent aux exigences d'une vie humaine simple et sobre, faire un bon repas, recevoir des amis, etc. Troisièmement, les désirs non naturels ou vides, qui correspondent à une vie humaine déréglée et intempérante, les désirs de richesse, de pouvoir, de gloire, etc. La philosophie morale d'Épicure recommande aux hommes, en effet, de s'en tenir aux deux premières sortes de désirs, car elles sont conformes à la nature et ne risquent pas de nous entraîner dans une vie déréglée, intempérante et par conséquent nécessairement malheureuse. Or, cette voie moyenne vers la sagesse, reposant sur la simplicité et la sobriété de nos désirs, ne semble pas accessible au plus grand nombre, à la foule, comme dirait Épicure, mais seulement à quelques « happy few ». Troisième question, désirer, est-ce nécessairement souffrir ? Si le désir, comme on l'a dit en introduction, nous pousse à rechercher un objet que l'on ne possède pas, c'est que le désir est manque. Il ne peut donc être vécu par le sujet, à première vue, que comme une cause de souffrance, qu'elle soit psychologique ou physique. Notons que si l'absence ou le manque de l'objet désiré est ressenti de manière négative par le sujet, c'est dans l'exacte mesure où ce même sujet pense obtenir une satisfaction positive lorsqu'il aura atteint l'objet de son désir. Or, si l'on ajoute à ces remarques le fait que l'objet visé ne nous apporte pas toujours la satisfaction attendue, qu'il risque donc de nous décevoir, alors il apparaît que le désir peut être la source d'une perpétuelle frustration, soit à cause du manque, soit à cause de la déception. Mais les choses sont-elles aussi tristement simples ? En réalité, il est possible de concevoir le désir d'une toute autre manière, en s'avisant notamment du fait qu'il peut être en lui-même une cause de satisfaction, de plaisir ou de joie. Or, c'est à la condition de ne pas résumer le désir à un sentiment purement négatif de manque par rapport à tel ou tel objet. En ce cas, la valeur du désir ne dépendrait pas de son objet, ni de la satisfaction promise par celui-ci, mais de sa force intrinsèque. Force de création, d'invention, d'imagination notamment, grâce à laquelle je confère de la valeur aux objets du monde, indépendamment de ce qu'ils peuvent m'apporter dans la réalité. Ainsi, par exemple, nous conférons grâce à notre imagination des qualités à l'être aimé que celui-ci ne possède pas forcément dans la réalité. Si grande est la force de l'illusion qui donne sa valeur à l'amour, indépendamment du sentiment de manque, de frustration ou de déception qui peuvent en résulter. Telle est, en substance, la signification de la célèbre exclamation de Jean-Jacques Rousseau dans son roman « Julie ou la nouvelle Héloïse », je cite « Malheur à qui n'a plus rien à désirer ». La question du désir intéresse au plus haut point les philosophes dans leur ensemble, car elle touche à la question fondamentale de la nature humaine. Encore une fois, le philosophe Spinoza va même jusqu'à affirmer dans l'Éthique, publiée en 1675, que, je cite, « le désir est l'essence de l'homme ». Comme nous l'avons vu, tout le problème est alors de déterminer si le caractère foncièrement insatiable du désir humain est un défaut, une tare ou une maladie à laquelle il conviendrait de remédier, en lui assignant notamment des limites, ou si elle constitue au contraire un avantage, une force et une source de créativité dont les hommes auraient intérêt à tirer profit, tant individuellement que collectivement. Les penseurs modernes et contemporains tendent généralement à s'accorder sur la deuxième hypothèse et semblent avoir le plus souvent renoncé à l'idée nostalgique et chimérique d'une limitation ou d'une modération des désirs humains.